Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite, c'est le journal. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. General Electric envisage la suppression de plus de 1000 emplois en France. Un plan social qui touche principalement la branche turbine à gaz de l'entreprise américaine implantée dans le territoire de Belfort. On sera sur place. Les enfants aînés de Johnny Hallyday remportent une manche dans l'affaire de l'héritage de leur père, mais Laetitia va faire appel. L'Europe, au lendemain des élections, bras de fer à Bruxelles sur les nominations à la tête des principales institutions. Un automobiliste écrasé par un bus cet après-midi à Paris après une altercation. Elle ne veut plus être la décharge du monde. Après la Chine, la Malaisie ferme ses portes aux déchets plastiques. On serait évidemment à Roland-Garros. Très bonne journée pour les Français. Gaël Monfils et Adrienne Manarino viennent de conclure cette journée en beauté. Et puis ça n'a pas traîné, l'Olympique de Marseille a un nouvel entraîneur. Côté météo, la journée de demain sera partagée entre éclaircies et averses, sauf près de la Méditerranée, sous le soleil, mais encore avec du vent. Sur la moitié nord, un nouvel épisode pluvieux. C'est promis, le beau temps est toujours annoncé pour la fin de semaine. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview Écho. Et ce soir, vous retrouverez Anne-Laure Jumet en duplex de Roland-Garros. Anne-Laure reçoit le vice-président du groupe de café Lavazza, Giuseppe Lavazza.
Europe 1.
À Belfort, la menace d'un plan social se profile donc chez General Electric. C'était dans l'air, on savait que le groupe américain connaissait des difficultés sur le marché des turbines à gaz. On a désormais la confirmation de la suppression de 1044 emplois en France, la plupart donc sur le territoire de Belfort. Et même si Bruno Le Maire promet d'être aux côtés des salariés, il reconnaît également que c'est un coup dur et ce ne sont pas ses salariés qui diront le contraire. Vous étiez à leur côté quand ils ont appris la nouvelle. Arthur Henbaché, comment l'ont-ils vécu ?
Évidemment, très mal. L'annonce de ce mardi, c'est catastrophique pour Belfort. Vous savez, ici, dans cette ville moyenne et autour de Belfort, tout le monde connaît, a dans sa famille, un salarié de General Electric. Les salariés qui, ici, à l'endroit où je me trouve, à l'usine de turbines à gaz, sont tristes, sous le choc, en colère. Lionel se sent menacé. Il est ouvrier ici depuis 38 ans. Il n'avait jamais cru à la promesse de GE de 1000 créations d'emplois en France il y a 5 ans. Il s'attendait à une mauvaise nouvelle, mais ces 1050 postes supprimés le scandalisent.
C'est une honte. Ça fait des milliers d'emplois de supprimés, des travailleurs qui sont donnés pour cette boîte. Puis aujourd'hui, on en est là. Je ressens la honte, je ressens du mépris, j'ai la haine, j'ai tout ce que vous voulez.
Alors pour avoir une idée de l'impact sur le territoire ici, écoutez Florian Bouquet, c'est le président du département du territoire de Belfort.
1050 emplois chez General Electric, c'est autant d'emplois dans la sous-traitance, c'est autant d'emplois aussi dans le domaine du commerce et puis les emplois indirects. Et 3000 emplois au total sur notre département, véritablement c'est un coup dur.
Le timing de l'annonce 2 jours après les élections européennes passe mal chez les élus locaux par ailleurs. Des élus qui espèrent néanmoins que la proximité entre le président de la République Emmanuel Macron et le patron de General Electric en France permettra de limiter la casse.
Arthur Henbaché aux côtés des salariés de General Electric, l'héritage de Johnny Hallyday. On en reparle ce soir. Pourquoi ? Eh bien parce que la justice française s'est prononcée aujourd'hui en faveur des enfants aînés de la star David et Laura. Le tribunal de Nanterre leur donne raison. La question était de savoir si c'était à la justice française ou américaine de trancher le litige qui oppose la veuve du chanteur à ses enfants. Et il estime que la résidence habituelle de Johnny était en France. C'est donc la loi française qui s'applique et elle ne permet pas de déshériter l'un de ses enfants. Revers important donc pour Laetitia qui va faire appel, mais un motif de satisfaction évidemment pour les enfants de Johnny. Maître Emmanuel Ravanas est l'avocat de Laura Smet, il était l'invité d'Europe 1 ce soir.
Cette décision, elle ne fait que constater des évidences, à savoir que, compte tenu de tout ce que nous savons sur Johnny Hallyday est une part de la France et Johnny Hallyday est un destin français, qu'en cette mesure, effectivement, il n'y avait pas d'autre choix possible pour la juridiction de Nanterre que de se déclarer compétent.
Alors, sauf que c'est une victoire de courte durée, puisque le camp Laetitia Hallyday a annoncé faire appel, la procédure repart à zéro.
Elle ne repart pas du tout à zéro, puisque nous allons poursuivre devant le tribunal de grande instance de Nanterre que Laetitia Hallyday doit déposer ses conclusions pour le 11 juillet prochain. Je dis simplement à Madame Hallyday et ses conseils qu'elle ne fera que retarder une procédure, mais que je ne crois pas que ce soit l'intérêt, parce que en réalité, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins. Soit la première option, c'est une obstination qui m'apparaît déraisonnable à poursuivre ces procédures avec des résultats qui seront en réalité en tout point analogues à ceux qui ont été rendus aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, il y a la voie, me semble-t-il, de la raison, de saisir la main que nous ne cessons de tendre depuis déjà plus d'1 an pour projeter ensemble le devenir de l'œuvre de Johnny Hallyday et puis de nous entendre sur les aspects patrimoniaux de cette succession.
Maître Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet, qui était l'invité de Mathieu Béliard ce soir sur Europe 1. Justice également, avec
un suspect qui n'a pas pris la peine de faire le déplacement. Chris Brown, le chanteur américain, devait être théoriquement confronté aujourd'hui à Paris avec une jeune Française de 24 ans qui affirme avoir été violée dans un palace parisien en janvier dernier, violée par la star, l'un de ses amis et par son garde du corps. Sauf que le chanteur n'est jamais venu. Elle avait fait le déplacement, elle. L'avocate américaine Gloria Allred, bien connue pour faire trembler les prédateurs sexuels, devenue icône du mouvement MeToo. Ça fait 40 ans qu'elle défend les femmes victimes de harcèlement sexuel et elle déplore aujourd'hui l'absence de Chris Brown.
Nous pensons que M. Brown n'a aucune excuse valable pour ne pas s'être présenté aujourd'hui. C'est un scandale. Je suis venue à Paris pour aider ma cliente lors de cette confrontation. Pourquoi n'est-il pas venu? Pense-t-il être au-dessus des lois? A-t-il appris que je venais à Paris? Avait-il peur de moi?
L'avocate américaine Gloria Allred au micro européen de Marguerite Lefebvre.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h06, sommet des dirigeants de l'Union européenne ce soir avec le début des négociations pour les nominations à la tête des institutions européennes. Le dîner informel vient tout juste de se terminer et on vous retrouve en direct. Jean-Rémy Baudeau, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Bonsoir Jean-Rémy.
Bonsoir Isabelle.
Emmanuel Macron tente de surfer sur la nouvelle configuration du Parlement pour imposer son tempo en Europe.
Oui, le dîner vient donc de se terminer, dîner à 28, 3 heures de discussion. Rappelons l'enjeu, comme vous le disiez, au lendemain des élections, l'Europe doit se doter dans les prochaines semaines des nouveaux patrons, des nouveaux présidents de certaines institutions. Ce sont des postes clés, 5 postes stratégiques, parmi lesquels la présidence de la Commission européenne, un poste qui historiquement revenait à l'un des deux grands partis qui ont toujours dominé le Parlement européen, la droite, le PPE, et la gauche, les sociaux-démocrates. Mais entre-temps, effectivement, la recomposition politique est passée par là, les libéraux du centre sont devenus un troisième bloc très puissant et le président Macron fait tout pour que ces postes ne soient plus automatiquement attribués aux deux grands blocs. Alors ce soir, dans quelques instants, on attend la déclaration du président Macron, mais au sortir de ce dîner, il semble que les dirigeants repartent avec le sourire, pas de point de blocage apparent en tout cas. Même Angela Merkel, opposée à la méthode Macron, a parlé à l'instant de discussions, je cite, bonnes et équilibrées, à l'appel, je cite à nouveau, à la tolérance et au compromis. Tout le monde voit ça comme un pas en direction d'Emmanuel Macron. Nous serons d'ici la mi-juin, si le président français a réussi son coup de force, s'il a réussi à faire bouger le mode de nomination des patrons en Europe, ce serait évidemment un changement symbolique extrêmement fort et ça permettrait peut-être de faire avancer certains dossiers, comme notamment les dossiers sur l'écologie.
Merci beaucoup pour ces toutes dernières informations en direct de Bruxelles. Jean-Rémy Baudeau, 6 ressortissants français désormais condamnés à mort en Irak. 2 nouvelles peines ont été prononcées aujourd'hui, toujours pour appartenance à l'État islamique. Le ministre Jean-Yves Le Drian, entendu par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, indique que la France a un indice sur un usage d'armes chimiques dans la province d'Idleb en Syrie, ce que dénoncent depuis déjà quelques jours les Américains. Un indice, mais pas de vérification. Idleb, dernier fief rebelle et djihadiste, est depuis 2 mois la cible d'une nouvelle offensive de Damas. Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. À Paris, un chauffeur de bus écrase un automobiliste avec lequel il venait d'avoir une altercation. À tout de suite.
Europe 1. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h09 et c'est la suite de votre journal. C'est une information qu'Europe 1 vous révélait ce soir. À Paris, une altercation entre un chauffeur de bus touristique et un automobiliste a tourné au drame cet après-midi. Pauline Jacquot.
Oui, la scène se déroule en milieu d'après-midi sur les bords de Seine, quai Voltaire, à 2 pas du musée d'Orsay. D'après nos informations, l'automobiliste est sorti de sa voiture pour demander des explications au chauffeur du bus qu'il avait légèrement accroché à l'arrière. Pas un bus de la RATP, mais un autobus touristique à 2 niveaux. L'automobiliste s'approche de la fenêtre, le ton monte, les insultes fusent, les 2 hommes échangent même des coups à travers la vitre. À ce moment-là, la circulation est bloquée sur le quai brusquement. Le chauffeur du bus redémarre en donnant un coup de volant à gauche. L'automobiliste, un homme de 56 ans, se retrouve écrasé contre un autre bus touristique immobilisé juste à côté. Il meurt presque sur le coup, sous les yeux terrifiés des passagers. Le chauffeur du bus, âgé de 46 ans, a été placé en garde à vue. Le test d'alcoolémie s'est révélé négatif. Inconnu jusqu'alors des services de police, il était ce soir en état de sidération.
Les précisions de Pauline Jacquot. On parle beaucoup du climat et de l'écologie en ce moment. On en parle notamment à Bruxelles, avec des constats souvent terrifiants sur la question des plastiques notamment. Eh bien aujourd'hui, la Malaisie se révolte. Elle va renvoyer des centaines de tonnes de déchets à l'envoyeur. Géraldine Wessner, la Malaisie annonce officiellement qu'elle ne veut plus être la décharge du monde.
Oui, il faut entendre la colère de la ministre malaisienne de l'Environnement. Depuis que la Chine a fermé ses frontières l'été dernier au plastique recyclé venu de l'étranger, le marché s'est reporté sur les Philippines, la Malaisie. Et ces pays n'en peuvent plus. Non seulement leurs usines de recyclage ne peuvent pas traiter cette masse, mais un marché clandestin s'est développé. 150 usines illégales ont été fermées en Malaisie. Et les 3000 tonnes de plastique que le pays promet de renvoyer à l'Australie, au Canada, ne sont pas recyclées. Elles ne peuvent finir que dans les rivières ou être brûlées. Sanitairement, pour la Malaisie, cette situation est insupportable. Et elle envoie un coup de semonce aux pays développés. Débrouillez-vous pour trouver une solution. Car si nous avons en France l'impression d'être vertueux, ça n'est pas vrai. La moitié de nos déchets environ sont envoyés à l'étranger parce que nous n'avons pas de filière pour trier correctement, recycler. C'est complexe le plastique. Il y a des milliers de matières différentes. On ne peut pas les mélanger. Il faut souvent trier à la main, c'est cher. Et au final, les nouveaux plastiques contiennent seulement 7% de plastique recyclé.
Les précisions de Géraldine Wessner que vous retrouvez tous les soirs dans le grand journal de Mathieu Béliard. 1000 euros d'amende pour le champion du monde du 800 mètres, Pierre-Antoine Boss, condamné pour une violente bagarre en août 2017 en Gironde. Il a été reconnu à la fois agresseur et victime. L'autre protagoniste, lui, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Et puis Roland Garros, jour 3, le bilan.
Roland Garros 2019.
Jeu, set et match.
L'événement tennis est sur Europe 1.
Et pour cette troisième journée sur la terre battue, les Français se sont encore très bien débrouillés. 7 qualifiés aujourd'hui pour le tour suivant. Bonsoir Corinne Boulot, vous êtes en direct.
Bonsoir Isabelle.
Alors je disais qu'ils se sont bien débrouillés, notamment Lucas Pouille et Caroline Garcia, la numéro 1 française. Et puis on a terminé en beauté cette journée, juste avant la tombée de la nuit, avec Gaël Monfils et avec Adrian Manarino, Corinne.
Oui, il faut dire que Gaël Monfils, par exemple, est entré sur le court peu avant 20h. Hein. Le 17e mondial n'avait vraiment pas envie de traîner. En un peu plus d'une heure et demie, il a bouclé l'affaire face au japonais Taro Daniel, 103e mondial, battu en 3-7, 6-0, 6-4, 6-1. En fin de match, Gaël Monfils a remercié le public resté dans la fraîcheur de la nuit tombante.
Ici, c'est la maison. Vous êtes fabuleux. Aujourd'hui, je suis bien rentré. Je suis rentré fort dans le match. Je savais que j'avais jusqu'à 21h45. Voilà, je me suis très vite concentré et derrière bien déroulé au troisième set.
Et voilà, au deuxième tour, Gaël Monfils sera opposé à Adrian Manarino qui lui aussi a bouclé son match en 5-7 face à un qualifié italien juste avant la tombée de la nuit. Au soir de la fin du premier tour, Isabelle, ils seront 15 au deuxième tour de Roland-Garros.
C'est pas mal du tout. Merci beaucoup Corinne Boulou en direct de Roland-Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Le foot, ça n'a pas traîné. L'Olympique de Marseille a un nouvel entraîneur. Le Portugais André Villas-Boas remplace Rudy Garcia pour un contrat de 2 ans avec un joli salaire au passage à la clé, environ 600 000 euros mensuels. Simon Rubin, la nouvelle a été officialisée cet après-midi.
Oui, on l'attendait, hein, cette signature. On en parlait déjà hier et puis depuis un certain temps. Ce matin, quand on a su que Villas-Boas était même à Marseille, là, on savait que c'était plus qu'une question d'heure. En soi, c'est déjà une réussite, hein, pour l'OM parce qu'on sait que le club voulait aller vite. Mission accomplie. Alors, sur le profil, hein, de Villas-Boas maintenant, c'est un entraîneur qui a brillé en début de carrière à Porto il y a quelques années, sur la scène européenne notamment. Ce qui lui a valu d'être ensuite appelé à Chelsea, puis Tottenham, des grands clubs anglais avec moins de succès. Puis ensuite, il est parti à Saint-Pétersbourg, dernier club en date Shanghai, donc clairement, c'était pas une progression. Et puis, Villas-Boas, c'est un coach qui a parfois du mal à imposer ses choix dans le vestiaire. C'est un gentil qui rechigne parfois à taper du poing sur la table quand ses joueurs ne font pas assez d'efforts. À lui de trouver donc la bonne formule, hein, dans cet OM volcanique. Mais Villas-Boas, il a appris de ses échecs. En tout cas, c'est le Paris marseillais, Villas-Boas et l'OM qui ont au moins une chose en commun et pas la moindre. Tous deux cherchaient perdument à retrouver leur gloire passée.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1 à Lyon a fêté aujourd'hui le retour du héros Juninho qui sera le nouveau directeur sportif de l'OL, donc déterminé à réussir dans son nouveau rôle. Le Brésilien a tout de suite prévenu qu'il n'était pas là pour rigoler. Et puis un dernier mot pour vous dire que demain matin, entre 7h et 9h, Nico Saliagas sera en direct de la centrale nucléaire de Gravelines. Il reviendra notamment sur la hausse de 5,9% du prix de l'électricité qui entrera en vigueur le 1er juin et il recevra le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy.
On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Et après la baisse des pressions du jour, on peut s'attendre, Elena, à une poussée de fièvre.
Alors oui Isabelle, la remontada des températures, eh bien ce sera surtout pour jeudi dans le sud avec une kyrielle de 25 degrés, 30 degrés vendredi, 30 degrés qu'on atteindra samedi sur les régions du nord. En attendant, demain ce sera pas une folie fébrile, hein. Ça remonte tout doux l'après-midi avec 16 degrés à Brest et au Havre, 18 à Nantes et Annecy, 19 à Lille et Clermont-Ferrand, 20 degrés pour Paris mais aussi pour Bourges, Strasbourg, Bordeaux et Toulouse, 21 à Lyon et Ajaccio, 22 degrés pour Cahors, 24 à Marseille, 25 à Nîmes et 27 pour Toulon. Le tout sous un ciel encore partagé entre nuages et éclaircies en matinée, voire du brouillard sur le nord-ouest. Près de la Méditerranée, les vents assureront un ciel bleu, quoique encore orageux sur l'est de la Corse. Demain après-midi, les régions du nord-ouest accueilleront une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse. Ce sera plus sec et clair entre l'Aquitaine, le centre, la Champagne, les Ardennes. Jeudi, encore automnal sur la moitié nord et estival au sud. Vendredi, nuages et éclaircies au nord. Ciel bleu au sud de la Loire avec donc les premiers 30 degrés de l'année dans le sud-ouest. Et je vous le disais, mais je le répète parce que ça fait tellement de bien, un week-end beau et chaud.
Répétez-le encore. La météo signée Elena Morna.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Juste avant l'invité écho, c'est Anne-Laure Jumet ce soir et elle reçoit le vice-président du groupe de café Lavazza, Giuseppe Lavazza. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 22h, 22h30. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17, comme tous les soirs sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui a débuté cette semaine sans conviction malgré la hausse de Fiat Chrysler.
Après trois jours de pause, hein, c'était le Memorial Day hier aux États-Unis, il n'y avait pas de cotation, donc un long week-end. Et un retour assez frileux hein, du Dow Jones, moins 0,93%, une baisse assez nette, 25 348 points, un Nasdaq qui cède 0,39%, une baisse plus modeste, 7 607 points pour les valeurs de technologie. Donald Trump a encore donné le ton au marché en estimant que les États-Unis n'étaient pas prêts à signer un accord commercial avec la Chine. Or, ça donne des valeurs de technologie qui baissent, encore comme IBM, moins 1,4%. Apple recule de 0,4%. En revanche, on résiste sur Microsoft, stable. Amazon, plus 0,7%. Facebook remonte d'1,8%. La vedette du jour, vous l'avez dit, c'est Fiat Chrysler. En hausse, forte hausse de 7,5%, 13,80$. Après les annonces de projets de rapprochement avec le groupe Renault, tout le secteur automobile s'est agité d'ailleurs. Après ces annonces assez spectaculaires, le pétrole remonte sur les 70$ le Brent, une petite hausse après une semaine de baisse nette la semaine passée. L'euro revient sur les 1,1160 face au dollar.
Et la Bourse de Paris a reperdu un peu de terrain dans le calme.
Moins 0,44%, il ne s'est pas passé grand-chose. Le CAC 40 à 5312 points. Un marché calme, oui, mais un secteur bancaire déprimé qui a plombé l'ambiance. Alors que les projecteurs se sont de nouveau braqués sur l'Italie, confortés par les résultats des élections européennes, Matteo Salvini a appelé à renégocier les règles budgétaires en Europe. De quoi faire se tendre les taux italiens. On est monté à 2,75%. Ça a chahuté donc sur le secteur bancaire en Italie. Et du coup, à Paris, on a la Société Générale qui recule de 2%. D'autres grandes valeurs aussi baissent assez nettement, comme EDF, moins 1,5%. Sanofi, moins 1,5% aussi avec Air Liquide ou BIC.
Exception du jour, Didier, le titre Néopost qui a fortement progressé.
Société donc de matériel d'affranchissement Néopost flambe de 9%. Ça remonte au-dessus des 20 euros, 20,30 euros, après des résultats bien meilleurs que prévus. Un chiffre d'affaires en hausse de 6,9% à 266 millions d'euros au 30 avril. Néopost aligne du coup un quatrième trimestre de croissance organique. Et donc le titre en net hausse ce soir à la clôture, plus 9%, 20,30 euros tout rond. Donc on a refranchi cette barre symbolique des 20 euros. Sur les autres places financières, ça baisse partout. La bourse de Francfort perd 0,3%. La bourse de Milan, moins 0,5%. Madrid, moins 0,27%. Et donc le CAC 40 en baisse de 0,44%. Le CAC ce soir à 5312 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
Anne-Laure Jumet, vous recevez ce soir le vice-président du groupe de café Lavazza.
Bonsoir Giuseppe Lavazza.
Bonsoir.
Nous sommes à Roland-Garros, hein, Europe 1, radio officielle de ces internationaux. Et votre groupe, Lavazza, est le café officiel de Roland-Garros depuis 5 ans. D'ailleurs, vous êtes partenaire des 4 tournois du Grand Chelem. Ça représente quoi en fait pour vous cette quinzaine ?
Et pour nous, c'est vraiment l'occasion de présenter notre marque, notre savoir-faire, de partager avec le tennis des valeurs en commun, comme la convivialité, l'excellence, l'héritage. Et c'est vraiment un plaisir aussi offrir notre café, l'espresso italien, mais aussi beaucoup de recettes à tous les gens passionnés de ce sport qui, tous les années, viennent ici. L'année passée, nous avons servi environ 460 000 cafés pendant les 15 jours de tournoi. Un grand succès.
Et je crois qu'il y a 70 boutiques, à peu près,
exactement, c'est un grand travail. Ce sont beaucoup de boutiques, beaucoup de points pour prendre le café, mais aussi beaucoup de formations pour les 300 baristas que nous formons tous les années pour donner un service haute gamme, haute qualité à tous les passionnés de tennis qui viennent ici chez Roland Garros.
Alors Lavazza, c'est un groupe italien d'origine, bien sûr, mais présent dans 90 pays. Il emploie 4000 personnes. C'est le numéro 3 mondial du café. Et c'est une affaire familiale. C'est votre arrière-grand-père, Luigi, qui a créé l'entreprise en 1895. Son coup de génie, c'est d'avoir été l'un des premiers à mélanger les cafés. J'ai lu d'ailleurs que pas un café ne sortait sans être goûté par un des membres de la famille. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, c'est vrai. C'est, naturellement, le café, pour nous, est une grande passion. C'est pas seulement notre travail, notre profession. Et encore aujourd'hui, le café Lavazza sort seulement après avoir reçu un beau jugement par les membres de la famille, exactement comme au début de notre histoire en 1895 avec Monsieur Luigi, l'arrière-grand-père.
En tout cas, vous n'avez pas du tout l'intention d'être racheté, vous tenez à votre indépendance, Giuseppe Lavazza, mais le marché progresse très vite. Est-ce que vous êtes en mesure de résister?
Ah, bien sûr, nous avons eu la chance et la possibilité de faire des forts investissements pendant les dernières 5 années pour nous renforcer et pour préparer notre groupe à être un player incontournable.
Un acteur.
Dans ce monde du café qui est très dynamique et va de plus en plus être global, mais aussi très concentré.
Et en 2016, donc vous avez racheté le leader du café en France, Carte Noire. Vous avez aussi fait des acquisitions au Canada, au Danemark, en Australie. Vous venez d'acquérir l'activité café du géant américain Mars. Vous êtes encore à l'affût d'opportunités?
Nous devons maintenant finaliser l'intégration de toutes ces grandes entreprises que nous avons rachetées pendant ces dernières 3 ans. Nous avons investi en somme énorme, un milliard et demi d'euros dans ce programme d'acquisition, mais aussi d'amélioration de notre plan industriel, un investissement à 360 degrés. Et maintenant, nous avons vraiment créé la plateforme pour faire encore mieux dans le futur.
Alors, vous revendiquez aussi, Giuseppe Lavazza, avoir été les premiers à lancer une machine espresso à capsule. C'était en 1889, mais en fait, c'est Nespresso qui a fait décoller le marché. Qu'est-ce qui s'est passé?
Nous avons lancé, à cette date, je me rappelle très bien, la première machine qui s'appelait Espresso Point, l'entrée du Lavazza dans le marché de la capsule. Lavazza est très fort, surtout dans le café qui est consommé dans les bureaux et dans les lieux de travail. Et donc, nous avons vraiment développé beaucoup de business dans cette direction, dans ce canal absolument unique et fort. Mais aussi dans les foyers, Lavazza est très présent avec ce système à Modomio.
Alors aujourd'hui, il y a un problème aussi écologique avec ces capsules qui ne sont pas forcément recyclables. Comment vous remédiez éventuellement à cette problématique qui est de plus en plus un sujet pour les consommateurs?
Nous avons travaillé beaucoup pendant les dernières 5 années pour développer une technologie de pointe. Et nous sommes en train de lancer en France cet automne une capsule recyclable et compostable haut de gamme avec la marque Lavazza, qui représente pour nous vraiment quelque chose d'unique au point de vue d'un impact écosoutenable et aussi au point de vue de la qualité que nous sommes capables de fournir avec ce système.
Alors, on a parlé des capsules, des dosettes, mais je crois qu'en France, c'est le café en grains qui progresse le plus fortement, plus 12% en 2018 par rapport à 2017. Ça reste encore dans des volumes relativement faibles. Mais est-ce que vous y croyez à ce développement du café en grains, justement? Et on rejoint peut-être les préoccupations environnementales des Français qui vont moudre eux-mêmes leur café dans des machines spéciales.
Et le café en grains, c'est un trend international et ça signifie surtout la recherche de petites productions de qualité, de cafés spécifiques, d'origine, donc répondre à une requête par les consommateurs de chercher vraiment quelque chose de spécial et de n'être pas lié seulement au système qui utilise la capsule. La capsule est bien sûr est très conveniente parce qu'elle prépare le café très vite, mais les grains gardent une allure de spécifique au point de vue des rapports entre les consommateurs, les produits et la tasse finale.
Et alors pour faire apprécier aux consommateurs ce café, il faut des gens formés, hein, spécialement pour l'occasion. Vous ouvrez un nouveau centre de formation à Paris, sur les Champs-Élysées ?
Et c'est correct, c'est un centre de formation qui appartient au réseau de que nous appelons l'école de formation de l'AVATSA, le Training Center, qui est une sorte d'université du café pensée pour donner information, training, renseignement aux public de notre client, mais aussi aux consommateurs en général, les personnes qui s'intéressent du café. Nous avons environ 55 centres de formation dans le monde et chaque année formons environ 30 000 personnes qui passent chez nous pour apprendre différents secrets du café.
Merci beaucoup Giuseppe Lavazza, merci de nous avoir reçus dans votre lounge à Roland-Garros. Je rappelle que vous êtes le vice-président du groupe Lavazza, numéro 3 mondial du café, on l'a dit. L'invité éco revient demain avec Emmanuel Dutheil à 22h20.
Merci beaucoup à vous Anne-Laure Jumet.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro. Gagnez du temps en imprimant vos timbres depuis votre bureau selon vos besoins à n'importe quelle heure de la journée.
Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. La droite cherche comment survivre au désastre, titre Le Figaro. Alors que Laurent Wauquiez n'entend pas démissionner après la déroute de dimanche, le président du Sénat, Gérard Larcher, lance une initiative pour rassembler la droite et le centre. La bataille pour la présidence de l'Europe est lancée, titre quant à eux Les Échos. Les 28 dirigeants européens doivent choisir les postes clés de l'Union, dont le prochain président de la Commission et celui ou celle qui dirigera la Banque centrale européenne. La nouvelle donne politique issue des élections au Parlement replace Emmanuel Macron au centre du jeu, nous disent Les Échos. Acte 2, 15 jours pour choisir, 9 mois pour agir, titre pour sa part le journal L'Opinion. Le temps est compté en Macronie. Édouard Philippe s'est laissé 2 semaines pour fixer l'agenda des réformes et il s'est donné jusqu'au municipal de mars 2020 pour transformer à tout va. Ce que veut Blanquer pour la maternelle, c'est dans le journal La Croix, un entretien avec le ministre de l'Éducation qui explique la nécessité d'être plus exigeant en maternelle dans les apprentissages, en français notamment. Dans le journal L'Alsace, Laurent Baudin revient sur le projet de fusion entre Fiat, Chrysler et Renault. Y aller ou pas, s'interroge-t-il. La proposition est séduisante. Le conseil d'administration du constructeur français s'est donné 1 semaine pour décider, soit un laps de temps très court qui laisse augurer de rapides fiançailles. L'affaire n'est cependant pas sans risque, s'agissant plus d'un mariage de raison que d'amour. S'il se réalise, ce mariage ne se fera probablement pas sans cris ni larmes. Et puis Roger Federer est à la une de Paris Match demain. Paris Match qui titre le retour du gentleman. Un gentleman qui reconnaît que sans sa femme, Mirka, il ne serait pas devenu champion. Derrière la réussite d'un homme, il y a une femme, dit-il. Et avec Mirka, j'en suis l'exemple parfait. Voilà donc ce que vous retrouverez demain à la une de vos journaux. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Derrière la réussite d'un homme, il y a une femme, c'est pas mal dit. Hein ?
Et oui, et derrière la réussite d'une femme, il y a aussi un homme,
c'est
ça qui est bien.
C'est vrai.
L'égalité préservée.
Bonne émission
Isabelle,
Sophie.
À tout à l'heure.